Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de comment choisir son programme d'entraînement. En fait, finalement, ce podcast, je voulais le faire sous forme de vidéo pour les membres VIP du site parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir pas mal de programmes à disposition pour tous les membres VIP et du coup, c'est normal, ils me posent souvent tous la même question, quel est le programme qui fonctionnera le mieux pour moi? Et au lieu de faire une réponse détaillée à chacun, j'ai préféré faire une réponse globale pour tout le monde, pour les membres et puis pour ceux qui sont pas intéressés par mon contenu membre, par mes programmes, qui veulent juste savoir un petit peu comment choisir leur programme d'entraînement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais élaborer j'ai élaboré le podcast comme ça, c'est que je vous propose quatre points que je juge essentiels pour choisir son programme d'entraînement. Mais également, je vous mets en description, pour tous ceux qui le souhaitent, la liste des programmes que je propose, en fonction, des priorités de chacun, finalement. Donc, on va démarrer tout de suite avec ça. On va démarrer avec le premier point. Donc, le premier point qui est... Alors, ça va être les points les plus simples en premier, les plus logiques, les plus sensés. Donc, ça va peut-être pas intéresser tout le monde au début, mais on va, au fur et à mesure, on va s'intéresser aux points les moins bien compris et qui sont souvent relayés en dernier, alors que pourtant, ce sont des points qui sont fondamentalement important si on veut durer à l'entraînement et surtout si on a une perte de motivation. Alors le premier point, c'est le nombre de séances par semaine. Évidemment, si vous avez un programme d'entraînement qui vous impose 5 séances par semaine et que vous, quoi qu'il se passe, vous ne pouvez pas faire plus de 3 séances par exemple, ça va créer des problèmes. Pourquoi? Parce que soit vous décidez quand même de le faire, mais vous lissez le programme sur 15 jours. Soit vous abandonnez parce que vous vous dites que si vous pouvez pas faire vos 5 séances par semaine, ça va pas marcher. Alors moi je suis plutôt partisan de l'entraînement régulier, c'est-à-dire que 5 séances par semaine, c'est une bonne chose. Après je peux comprendre et je peux, enfin voilà, j'accepte qu'on puisse progresser en 3 séances par semaine, il n'y a pas de problème. Seulement moi c'est ce que j'ai fait finalement. Personnellement moi j'ai toujours eu une méthode d'entraînement qui s'articulait autour de minimum 5 séances par semaine. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et pour moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée d'être vraiment à fond au niveau local sur chaque muscle. Après, c'est très personnel. Il y a des personnes qui préfèrent s'entraîner moins souvent, des personnes qui ne peuvent pas s'entraîner aussi souvent, et il y a des personnes qui peuvent s'entraîner plus souvent que 5 fois, et qui trouvent leur bonheur là-dedans, quoi, on va dire, entre guillemets, qui trouvent des résultats, etc. Donc le nombre de séances qu'impose le programme que vous voulez suivre, c'est avant tout, il faut savoir le nombre de séances que vous pouvez faire chaque semaine. Donc ça c'est le premier point. Définissez le nombre de séances que... Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est intéressant de voir dans les pires moments le nombre de séances que vous pourrez faire chaque semaine. C'est-à-dire que ne prenez pas comme repère les vacances ou des périodes calmes au travail, etc. Prenez comme repère des moments un peu de bourre. Et ça va vous permettre de vous dire, OK, là, cette semaine, ça a été une semaine plutôt catastrophique, avec beaucoup de stress, beaucoup de préoccupations. Alors peut-être très productive au niveau professionnel ou même personnel, mais une petite tempête au niveau mental, etc. Et dans cette semaine-là, regardez combien de séances de sport vous avez pu faire et vous allez pouvoir en définir votre minimum. C'est-à-dire que quand tout va mal, j'arrive au moins à faire X séances de sport. Et ça vous permet de choisir un programme qui pourrait être basé plus sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'aurez pas cette angoisse de vous dire « Ok, j'arrive à tenir les séances quand tout va bien, mais je sais très bien que quand tout va mal, je saute des séances et rien ne va. » Donc, basez-vous sur ce qui fonctionne, même dans les pires cas, ce qui aura de grandes chances de toujours fonctionner dans tous les cas. Et puis, quand vous pouvez faire plus de séances parce que c'est plus cool, autorisez-vous plus de séances, pas de problème. Il n'y a pas de règle, en fait. Et la règle, c'est de durer, d'aimer ce que vous faites, surtout, mais de durer. Et pour durer, il faut avoir quelque chose de relativement flexible. On en parlera après, d'ailleurs. Deuxième grand point pour sélectionner son programme d'entraînement, ça va être l'objectif que l'on a. Donc, alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont dérivé un petit peu ce point-là sur des enfin l'utilisant sous forme de marketing un peu abusif parce que on peut avoir un objectif de siège, de force ou de prise de masse, et le programme sera pas totalement le même. Et il y en a beaucoup qui ont mis en évidence certains programmes comme Magic pour sécher. Alors, je parle d'entraînement, bien sûr, hein, je parle pas de nutrition, là. Donc, certains programmes d'entraînement Magic pour la sèche, d'autres Magic pour la force, d'autres Magic pour la prise de masse. Alors, dans la réalité, il existe des techniques d'entraînement qui vont potentiellement améliorer la sèche, enfin, la perte de graisse durant en plus, on va dire, d'un équilibre alimentaire, etc. Il y a des programmes où c'est avéré qui vont être plus productifs au niveau de la force et d'autres qui vont être plus productifs au niveau de l'hypertrophie, donc de la masse musculaire. Après, ce sont, il y a eu beaucoup de dérives et finalement, au niveau de l'entraînement, malheureusement, on en sait beaucoup, mais pas assez à la fois. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'individus, de facteurs génétiques, de morphologies, etc. différentes, qu'un même programme peut donner des résultats, on va dire, très encourageants chez certains, peu encourageants chez d'autres. Donc du coup, ça crée beaucoup de... Comment dire ? Ça crée beaucoup de brouhaha au niveau de la tête de celui qui cherche à faire un bon programme. Et du coup, il peut commencer à douter. Donc moi, je tiens à vous alarmer. Certes, il existe des gens qui profitent de vos objectifs, par exemple, de perte de graisse, de prise de masse, de prise de force, pour vous proposer des programmes qui sont pas forcément les meilleurs ou alors qui vont vous mentir en fait sur les résultats. C'est-à-dire, ne faites rien d'autre que mon programme et vous allez avoir les tablettes de chocolat. Ça, ben voilà, si vous écoutez mes podcasts, vous savez que c'est pas comme ça que ça se passe. Certes, l'entraînement, l'activité physique, c'est le pilier. Quand on cherche à améliorer son physique, il faut se lever, il faut aller s'entraîner. Ça, d'accord. Après, on peut orienter plus vers la sèche, plus vers la force, plus vers la prise de masse, pas de problème. Mais après, il faut, c'est l'importance de l'entraînement qui est souvent mis un petit peu trop sur le devant de la scène et on oublie un petit peu tous les autres facteurs, quoi. Donc, il faut d'abord définir l'objectif que l'on a. Si on souhaite perdre du gras, il va falloir faire très attention à une chose. Ben, c'est que l'énergie va un petit peu manquer. Donc, il va falloir prioriser sur les entraînements de musculation. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi ? Beaucoup vont miser sur le cardio. Moi, je mise plutôt sur la musculation. Étant donné que durant un régime, on perd de la masse musculaire, quoi qu'on fasse, et que une des seules techniques pour ralentir la perte de... Enfin, la seule technique pour retenir le maximum de masse musculaire, c'est de continuer de la contraindre avec des charges, avec des poids, en fait. Et plus on va maintenir cette contrainte mécanique au sein des muscles, plus on aura de chances de maintenir sa masse musculaire. Évidemment, il y a un facteur alimentaire, évidemment, il y a un facteur génétique, mais l'entraînement devra être dans ce sens-là, c'est-à-dire ayant pour objectif de maintenir la masse musculaire. Après, il peut y avoir autre chose, mais tout ça, je le détaille, mais on peut aussi augmenter la fréquence de travail des zones qui ont du mal à sécher. Ça a été démontré que ça fonctionne. Alors, pour une personne qui est obèse, ça va pas être quelque chose de significatif. On va dire, dans le miroir, on va pas réellement voir des changements. Mais pour une personne qui a un taux de gras qui n'est pas excessif, qui a une composition, on va dire, une forme musculaire, un physique qui est plutôt athlétique, qui fait déjà du sport, qui commence à faire attention à ce qu'il mange et tout. Cette personne-là, par exemple, je vais prendre l'exemple des abdos, si elle a une fréquence d'entraînement des abdos qui est assez élevée, elle n'aura pas les mêmes résultats que celui qui s'entraîne pas les abdos. Il n'y a pas besoin de chercher les études scientifiques, même s'il y en a. C'est pas la peine de chercher, en fait. Plus on va développer une masse musculaire, plus on va développer un groupe musculaire, plus il aura de chances d'apparaître beaucoup plus facilement quand on va perdre du gras. Donc ça, c'est un point. Après, pour la force, c'est pareil. Pour la prise de masse, c'est pareil. Si on a un objectif de prise de force et qu'on s'oriente vers un programme plus qui vise à maintenir sa masse musculaire, en fait, on n'est pas dans l'optimal. C'est-à-dire que pour la force, il y a des techniques qui ont été prouvées, qui fonctionnaient, plutôt des répétitions plus courtes, avec des charges plus lourdes, des temps de repos plus longs, des fréquences d'entraînement en fonction du niveau de force, qui sont un petit peu plus espacées. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas répéter le même mouvement plusieurs fois par semaine en très très lourd. On va laisser le temps à l'organisme de récupérer, de surcompenser. surtout au niveau du système nerveux, de bien récupérer pour pouvoir enchaîner des séances lourdes, voire très très lourdes, parce que la prise de force, on joue beaucoup sur le système nerveux, même s'il y a cette prise de masse musculaire en parallèle, il y a quand même ce côté, ce facteur nerveux, cette récupération nerveuse qui est très handicapante. Surtout, plus on avance dans la force, plus ça devient handicapant. Et on a après la masse musculaire qui, là, ben voilà, hein, c'est essentiellement basé sur une alimentation qui a pour but d'être hyper calorique, c'est-à-dire au-dessus de nos besoins. Et donc, en parallèle, d'avoir un entraînement qui va déclencher une réponse anabolique. Donc là, des formes d'entraînement qui déclenchent une réponse anabolique, il y en a des tas. Les études montrent quand même que de s'entraîner dans les 70-75% de son maximum, ce qui représente à peu près entre 6, 8, 10 reps maxi, parce qu'à 75%, on ne fait pas du 10, 12 reps, c'est assez complexe. C'est ce qui fonctionne plus ou moins le mieux. Donc, ayant ces repères en tête, on peut avoir déjà un bon repère sur le programme qu'on va sélectionner. Troisième point, la flexibilité du programme. C'est évident qu'une personne qui vous donne un programme tel quel, qui vous dit tu fais ça et tu fermes ta gueule, en gros, désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est plus ou moins ce qui peut se passer de temps en temps, ou alors des programmes qu'on va trouver dans des ouvrages ou autres. Ce qui manque à ce genre de programme, c'est la flexibilité. C'est sur ce quoi j'ai moi beaucoup travaillé sur les programmes que je propose sur le site pour les VIP. C'est ce côté flexibilité. La flexibilité, c'est quoi? C'est un individu va avoir sa morphologie plus ses points faibles. Elle va avoir aussi ses propres blessures, ses ressentis à l'entraînement. C'est-à-dire que si je vais donner, par exemple, le même exercice à tout le monde, alors, enfin, moi, je donne rien du tout, entre guillemets, hein, c'est juste à titre informatif, mais si on donne le même exercice à tout le monde, certes, par exemple, je vais prendre le cas très concret du développé couché, il y a des personnes qui vont avoir des pecs énormes en faisant du développé couché, parce que tout fonctionne très bien pour leurs pectoraux avec ce mouvement-là. D'autres personnes qui vont avoir des résultats satisfaisants, mais pas autant que le premier cas de figure. D'autres qui vont avoir très peu de résultats, et plutôt prendre des triceps, de l'avant d'épaule avec ce mouvement, et puis d'autres qui carrément vont ni avoir ce développement musculaire au niveau des triceps, ni des épaules et des pectoraux, mais vont avoir en permanence des douleurs suite à ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce mouvement, elles sentent mécaniquement que ça se passe mal. C'est pas quelque chose qui est, je vais pas dire que le développé couché naturel, mais cet axe de mouvement, cette prise en main, cette trajectoire, ça leur convient pas du tout. Et du coup, le côté flexibilité du programme, c'est un programme qui peut vous permettre de remplacer un exercice par un exercice qui vous convient. Donc un exercice donné qui vous convient pas par un exercice qui vous convient. Donc par exemple, d'avoir une plus ou moins une trame d'entraînement, c'est-à-dire d'une façon de faire, des temps de repos, des nombres de répétitions, etc. Des exercices pour vous donner des indications, si c'est plutôt un exercice polyarticulaire, entre guillemets, de base, ou plutôt un exercice d'isolation, mais après que ce soit interchangeable, c'est-à-dire que ce soit adaptable en fonction de votre morphologie, de votre passif, de vos douleurs, et surtout de vos points faibles et de votre réactivité à chaque entraînement. À chaque exercice, pardon. Donc ça peut être applicable, entre guillemets, pour les personnes qui ont une année d'entraînement, par exemple, ou 2 ans, des personnes qui sont intermédiaires ou même avancées. Pour les débutants, on va plutôt miser sur des entraînements plus basiques. C'est-à-dire que le débutant, moi je recommande aux débutants déjà de s'inscrire dans une très bonne salle avec un très bon coach. Le problème qu'il y a, c'est que dans les salles un petit peu low cost, c'est beaucoup de commerciaux et très peu de coachs. Le rôle du coach au démarrage, si vous avez la chance de tomber sur un très bon coach, et je les en remercie parce qu'il y en a, et j'en ai rencontré un d'ailleurs qui vit pas très loin de chez moi, une personne vraiment passionnée. Et ça, je pense que moi, c'est quelque chose qui, bon, je fais pas de coaching en salle, c'est pas mon travail. Il y a des gens qui font ça très très bien, et d'ailleurs cette personne le fait visiblement très très bien. Quand on trouve un bon coach, il va nous faire gagner des années et des années. Pourquoi? Parce que immédiatement, il va nous éduquer sur les formes d'exécution, sur le placement, etc. Et toutes ces entre guillemets valeurs et ces compétences qu'on va acquérir, plus tôt on va les acquérir, mieux c'est. Il y a des personnes qui, année après année, continuent de faire des mauvais mouvements. C'est-à-dire qu'elles vont Par exemple, je reprends le cas du développé couché. Une personne ne peut avoir aucun résultat avec le développé couché, non pas par sa morphologie ou autre, mais tout simplement parce que sa posture, sa technique n'est pas bonne. Et comment apprendre une technique? Alors sur YouTube, on peut se faire un petit avis en regardant la personne faire le mouvement. Quand encore une fois, malheureusement avec YouTube aujourd'hui, il y a plus de clash de tous ces trucs-là que d'éducation. Bref, mais en tout cas, il y a certaines chaînes YouTube, j'imagine, j'espère en tout cas, qui fournissent des vidéos avec des techniques d'exécution qui sont plutôt cohérentes. Et donc du coup, ça peut être une alternative, mais c'est pas l'idéal. Alors je sais que ça va faire un peu nostalgique, un peu vieux gars, bon j'ai que 31 ans, mais quand j'ai démarré la musculation, moi je suis allé dans une salle, vous savez, un petit peu rurale, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous savez, ces salles un peu associatives. Et ce genre de salle d'entraînement, elles avaient toujours un coach souvent passionné. Moi, où j'allais, c'était un coach qui avait fait, ben voilà, il avait passé son brevet d'état à Cumez il y a des années, quelqu'un qui s'entraînait beaucoup, de très fort, etc. Et qui avait tous ses basiques. Il pouvait apprendre à faire un soulevé de terre, un squat, un développé couché, des écartés, de la poulie vis-à-vis. Il avait toutes ces notions. Et donc, du coup, aujourd'hui, je pense que dans les nouvelles salles, les salles un peu modernes, où on embauche plus des commerciaux que des coachs, il manque cette dimension d'éducation. Alors certes, il y a pas mal de personnes qui peuvent aider. C'est-à-dire que une personne qui a beaucoup de pratique, d'années de pratique, qui a bien réussi à développer son physique et tout. Donc toi, si tu m'écoutes et que ça fait longtemps que tu pratiques et que t'as un bon physique et tout, moi je t'invite à éduquer à ta manière, de manière détachée, parce que t'es peut-être pas coach, les personnes que tu vois mal faire. Pourquoi? Parce que c'est ta passion et que la personne que tu vois en face de toi, ça se trouve, elle va se blesser. Elle n'a pas la chance d'avoir un coach avec elle. Donc, c'est sûr que d'arriver lui dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », c'est un peu agressif, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie, qui sont plutôt dans leur bulle. Et j'ai même remarqué des personnes qui sont très arrogantes et très sûres d'elles, alors qu'elles ont un physique qui correspond pas à leurs années de pratique et à leur degré de passion. C'est malheureux, mais c'est comme ça, parce que on le voit, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur forme d'entraînement, dans leur alimentation, dans leur récupération. Enfin, il y a quelque chose qui cloche et qui fait que, je sais pas, peut-être que c'est ça qui crée leur colère, leur frustration. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on a un certain niveau, on peut avoir un petit peu ce rôle d'éducateur. Parce que dans tous les cas, il y en a qui vont dire oui, mais ce sont pas des coachs, ils vont induire en erreur. Je suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, le débutant, ce qu'il va faire, il va observer la personne qui a plutôt un physique agréable, qui lui plaît, qui lui convient. Il va discrètement l'observer dans la salle de sport et tenter de refaire la même chose. Pourquoi? Parce que moi, j'ai remarqué souvent, alors, n'y voyez rien de prétentieux là-dedans, mais j'ai remarqué que des fois, quand j'apportais un nouvel exercice dans mon entraînement, le jour d'après ou la semaine qui suivait, je voyais des adhérents faire le même exercice. Donc, il y a bien ce côté miroir, si vous voulez, parce que les personnes, bon, ben, peut-être que j'ai plus de pratique qu'elles, et j'ai peut-être un physique qu'elles ont envie d'atteindre dans un futur plus ou moins proche, et donc du coup, il y a ce phénomène de copie. Et c'est toujours mieux d'apporter les arguments avec. Par exemple, si une personne recopie pour un exercice que je fais pour un point faible, c'est intéressant que j'aille la voir et que je lui dise « tu fais ça pourquoi ? D'accord, t'as aussi un point faible, ok, bon, ben, essaye, tu verras bien ce que ça donne pour toi. » Mais si une personne débute et fait cet exercice qui est un exercice, on va dire, intermédiaire, avancé, voire très avancé, parce que c'est vraiment pour aller chercher sur un point faible, comment faire pour le développer, etc. Là, le rôle de la personne, c'est de lui dire « peut-être que c'est pas intéressant pour toi, moi je fais ça parce que j'ai une faiblesse, mais toi, potentiellement, tu n'en as pas. » Donc, concentre-toi plutôt sur des basiques, et si tu as une question, tu peux me la poser. De toute façon, il n'y a pas de coach dans ces salles. Et c'est ça le problème. Je préfère aider, c'est-à-dire une personne va venir me poser une question, je préfère l'aider directement que la laisser faire n'importe quoi. Après, c'est une question de passion. Il y a des gens qui s'en branlent complètement, que les autres se blessent. Moi, j'ai ce côté passionné, et je préfère autour de moi avoir des gens passionnés qui progressent que des gens qui se blessent et qui abandonnent. Bref. Tout en restant assez détaché, parce que malheureusement, le travail de coach est réglementé, enfin, malheureusement, heureusement, parce que malheureusement, je dirais malheureusement, parce que c'est par rapport à la situation actuelle où il n'y a pas de coach dans les salles, il y a beaucoup plus de commerciaux que de coach, mais vu que la discipline est réglementée, Il y a assez peu de coachs et des vrais coachs sportifs, moi je m'en rends compte, des compétents n'acceptent pas en fait de travailler dans ces salles low cost. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps à faire le ménage, à vendre des abonnements plus qu'à coacher des gens. Donc je peux les comprendre que ça les intéresse pas. Bref, donc ça crée un paradoxe parce que du coup, il n'y a pas de coach compétent dans les salles low cost. Enfin, c'est très rare en tout cas. Il y en a, j'en ai rencontré, mais c'est très rare. Quatrième point, je me suis un petit peu attardé sur le troisième. Donc quatrième point, la motivation engendrée par le programme. Alors ça, c'est le dernier point. Pourquoi ? C'est le point pour moi que je juge le plus important. Parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir avec une telle énergie en me disant « j'ai fait du crossfit, c'était génial, je me régale, c'est ce qu'il me faut, ce qu'il me faut ». Ok, fais du crossfit mon gars. Si c'est le truc qui te passionne, si c'est le truc qui tu sais que ça va t'amener un meilleur physique, si tu crois, si t'es à fond là-dedans, fonce. Et par contre, si la musculation classique te dégoûte, t'ennuie, si t'arrives pas en fait à te conditionner, parce que finalement, j'en parlais avec un ami qui est très passionné comme moi d'entraînement et puis de tout le reste d'ailleurs de nutrition et tout. Et je lui disais, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes se retrouvent passionnées par le crossfit parce que il y a ce cadre, il y a cette émulation, il y a ce côté progression, ce côté de partage et tout ça. Et du coup, sont plus motivées comme ça parce qu'elles n'arrivent pas à le faire quand elles sont isolées dans leur salle ou dans leur garage. Avec mon pote, on en parlait, on disait, nous, on n'a pas réellement besoin de ça pour être motivé parce que finalement, on arrive à se créer cette dynamique seul. C'est-à-dire seul face à nos haltères, nos barres, etc. On arrive à trouver du sens à notre entraînement du jour. Quelque chose qui va nous mener jusqu'au bout de l'entraînement avec satisfaction, intensité, etc. Donc moi, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont besoin d'autre chose. Donc le crossfit ou quoi, ça peut être une discipline qui peut leur convenir. Donc c'est pour ça que la motivation engendrée par le fait de penser à tel ou tel programme, c'est super important. Vous déjà que démarrer l'entraînement, c'est pas facile pour tout le monde. Quelqu'un qui a avancé n'a plus trop ce problème. Mais quelqu'un qui démarre, c'est difficile. Donc si en plus on lui dit tu vas démarrer le sport, tu lui mets une première cartouche dans la tronche parce que waouh, il va falloir se bouger le cul. Le corps, il n'est pas habitué, il va se mettre en mouvement, ça va être un peu délicat. Même si ça se passe très bien, hein, je vous rassure, mais on sait tous que c'est comme la première journée dans un nouveau boulot, on a l'impression à la fin de la journée, oh putain, je pourrais jamais tenir ce boulot toute ma vie. Et puis, on se rend compte au bout d'une semaine que bah, finalement, on s'y est habitué et qu'au bout d'un an, on commence même à s'y ennuyer dans ce travail tellement que ça devient facile et un petit peu routinier. L'entraînement, c'est un petit peu la même chose. Au début, waouh, c'est un petit peu la première semaine, on dérouille un peu l'organisme, quoi. Hein, il faut dire ce qui est. Et puis, au fur et à mesure, ben, il peut s'installer un petit peu cette forme de routine, des habitudes, d'un automatisme, et donc la motivation va baisser. Et on se rend compte que la motivation est souvent là, en parfait équilibre avec la dose de contrainte. C'est-à-dire qu'il faut une contrainte qui soit surmontable, un objectif qui soit motivant, et à la fois, ce côté où on sait qu'on est capable de surmonter la chose. Et si on associe tout ça, on sait que le programme, ça va le faire. Et on va rentrer chez soi, on va être motivé, pressé de faire l'autre séance, etc. Mais au bout d'un moment, quand on sait que c'est de l'acquis, les séances, on arrive à valider tous les exercices, on a déjà eu le plus gros de notre progression au niveau de la force sur tous les exercices, etc. On a tendance à perdre un petit peu la motivation. Se dire, je vais y aller, bon, en fait, parce qu'il n'y a plus trop de ce côté défi, de choses à surmonter. Et donc, la motivation engendrée par le programme que vous choisissez, et c'est super important. Moi, j'ai toujours remarqué une hausse de ma motivation quand j'ai renouvelé mon programme d'entraînement. Et c'est pour ça que les programmes que je vous propose, là, qui sont dessous, je les propose avec une fréquence qui est... c'est pas une fréquence, je vous dis pas un nouveau programme tous les mois, ça sert à rien. Au bout d'un mois, on peut pas avoir réellement une progression significative. C'est-à-dire qu'on va... Certes, on progresse en un mois. Mais on n'exploite pas au maximum le potentiel de ce programme-là. Enfin, du programme. Donc, c'est pour ça que la récurrence, enfin, la fréquence de publication des programmes, c'est régulier, mais c'est cohérent aussi. Pourquoi ? Parce que si j'envoyais des programmes aux abonnés, admettons tous les mois ou tous les 15 jours, ils vont toujours être perdus. Est-ce que j'arrête l'ancien ? Comment ça se passe ? Et puis, on va créer une demande, on va créer un désir chez la personne. C'est-à-dire que la personne va être en train de faire un programme qu'on lui a proposé, ou une forme d'entraînement, et puis, au bout de 15 jours, elle va avoir un nouveau programme qui va arriver, donc on va refaire naître un nouveau désir, et du coup, elle va passer un peu aux oubliettes l'ancien programme, alors qu'il lui reste tant de progression à avoir sur le précédent programme. Donc encore une fois, moi, tous les programmes que je propose, ce sont pas des programmes personnalisés. C'est-à-dire que je ne propose pas de programme sur mesure. Encore une fois, ça c'est le travail du coach. Moi, ce que je vous propose, c'est des programmes qui sont à vous à adapter, c'est-à-dire que qui ont cette, comme je disais dans le troisième point, la flexibilité. C'est-à-dire que c'est plutôt des indicatifs. Enfin, des indicatifs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si vous voulez prendre de la force, voilà comment faire. Si vous voulez prendre de la masse, voilà comment faire. Si vous voulez plutôt sécher, voilà comment faire. Donc les programmes, certes, il y a les exercices et tout. Pourquoi ? C'est les programmes que moi j'ai fait et qui me conviennent. Et après, c'est à vous de comprendre comment fonctionne l'entraînement avec les billes que je vous apporte dans les vidéos, parce que chaque programme est accompagné d'une vidéo. Et c'est ça, au lieu de suivre un programme sans savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, quel est le rôle de tel et tel exercice, moi j'aime apporter ce côté, je vous explique la logique du programme, après à vous de vous faire montrer les mouvements par votre coach, ou si vous êtes expérimenté, de tester sur vous, mais surtout de comprendre la logique de tel ou tel temps de repos, de tel ou tel nombre de répétitions et de séries. Et ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de respecter les quatre points que je vous disais pour sélectionner votre programme. Donc je les répète, le nombre de séances par semaine que vous pouvez faire, l'objectif que l'on a, sèche, force, prise de masse, la flexibilité du programme, en fonction de votre morphologie, de vos points faibles, etc., et de vos blessures aussi. Et quatrième point, la motivation engendrée par le programme, et je reviendrai sur ce dernier point en vous disant que si le programme que vous avez entre vos mains vous motive avant même de l'avoir commencé, il y a beaucoup plus de chances que vous arriviez à le tenir sur le moyen long terme que un programme qui d'avance vous décourage. Donc voilà, c'était un podcast que je voulais faire à la base en privé, mais que je fais en public parce que ça pourra aider les VIP, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas envie de voir mon travail privé. Donc pour tous les autres, vous pouvez retrouver tout ça en description pour voir la liste des programmes. Et puis pour tous ceux qui consomment juste du gratuit, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut.